Actu SF, les podcasts.
Donc nous allons parler de Sherlock Holmes. Alors, comme on est aux Utopiales, j'avais l'intention de vous faire connaître nombre de livres qui pourraient vous plaire. Donc en fait, on va bien sûr parler de Sherlock Holmes dans les aventures relatées par le docteur Watson et publiées par Arthur Conan Doyle, mais on va aussi aborder les incursions de Sherlock Holmes très nombreuses dans trois domaines qui nous intéressent, qui sont le fantastique, la science-fiction et la fantasy, parce qu'il est, de tous les personnages de fiction, celui qui a le plus investi des champs littéraires qui ne sont pas les siens au départ, puisque lui, bien sûr, émerge dans le roman policier. Alors, on va partir de deux phrases qui sont censées être prononcées par le détective, par l'enquêteur. La première, elles sont assez tardives, les deux. Elle est de 1921. Elle apparaît dans La pierre de Mazarin et Sherlock Holmes dit « Je ne suis qu'un cerveau dont le corps est l'appendice. » Bon. Autrement dit, il met tout de suite le primat de l'esprit sur le corps. Et la deuxième qui apparaît dans L'illustre client, qui est publié en 1924, où il dit « J'utilise ma tête et non mon cœur. » Ce qui est probablement une allusion au cœur à ses raisons que la raison ne connaît pas de Blaise Pascal. Autrement dit, l'enquêteur, le détective, se pose lui-même dans le champ de la pensée, de l'intelligence, du raisonnement, probablement pas de la déduction, quoi qu'il en dise, et pas du corps. Or, quand on observe Sherlock Holmes dans ses aventures, eh ben, il est fortement question, au contraire, de son physique. Il a un physique déjà qui est extrêmement typé. Conan Doyle, par deux fois, le décrit comme ressemblant, je cite, à un Indien peau rouge. On pourrait insister sur son nez aquilin, ses pommettes marquées, ses cheveux noirs. Et puis, Sherlock Holmes, dans toutes ses aventures, est une somme de paradoxes, de contradictions, puisque à la fois, c'est un ascète qui se prive des jours entiers de nourriture, mais en même temps, lorsqu'une enquête est finie, il va exclusivement dans d'excellents restaurants, et en même temps, dans l'hygiène du corps, il est aussi une somme de paradoxes, puisqu'il fume comme un pompier, il se drogue, principalement de la cocaïne, une solution à 7%, et à côté de ça, il est décrit comme étant un athlète accompli, il est un boxeur hors pair et il pratique un art martial pseudo-oriental qui est le baritsu. Enfin, là, pour tracer les premières grandes lignes concernant Sherlock Holmes, bah, tout le monde connaît sa silhouette, c'est-à-dire que tout le monde connaît sa casquette à double visière, c'est-à-dire Stalker, tout le monde connaît son manteau-cap McFarlane, sa pipe courbée, bien sûr. Or, ce sont autant d'éléments physiques qui ne sont jamais mentionnés dans les aventures de Sherlock Holmes. C'est-à-dire que c'est un ajout de la part de ces deux illustrateurs qui étaient principalement les frères Paget. Autrement dit, le brouillard, le fog londonien se densifie puisque on ne peut pas le saisir par les contradictions qu'il présente lui-même quant à son physique, et les certitudes que l'on a de son physique ne sont précisément pas celles qui sont dites dans les aventures. Enfin, dernier point, avant de rentrer dans le vif du sujet, Sherlock Holmes se définit lui-même comme enquêteur, bien sûr, mais comme détective logicien. Or, quand on observe ce que sont les raisonnements de Sherlock Holmes, ils sont tous sauf logiques. Ils n'ont absolument rien de logique. Ils sont au contraire magiques. Ils fonctionnent par analogie. Je prends un exemple. Les frères Holmes, dans l'aventure de l'interprète grec, sont à la fenêtre au bow window du Diogène Club et observent un homme dans la rue. Et donc les deux frères, Mycroft et Sherlock, dont on verra tout à l'heure que Mycroft est en réalité plus intelligent que Sherlock, les deux frères rivalisent en raisonnement et ils en arrivent à déduire, et je mets des guillemets, que le quidam, le passant dans la rue, parce qu'il a telle boîte de jeu et tel jouet, a autant d'enfants. Il ne vient absolument pas à l'esprit de l'un ou de l'autre des frères Holmes qu'il a peut-être fait des courses pour sa voisine. Mais ce n'est pas grave. Tout simplement parce que le réel, dans les aventures de Sherlock Holmes, s'adapte à son raisonnement et ce n'est pas son raisonnement qui s'adapte au réel. C'est-à-dire qu'il a donc un comportement pseudo-logique et qui donc va, par ces espèces d'entorses, d'entailles qui sont faites à la vraisemblance, permettre assez facilement à Sherlock Holmes de passer dans les littératures de l'imaginaire et principalement le fantastique, la fantaisie, la science-fiction. Bon. Alors, du point de vue du détective, Sherlock Holmes, quand il se définit lui-même, et nous l'avons vu, un logicien, il pratique ce qu'on appelle la raison pure, c'est-à-dire une raison qui ne s'embarrasse absolument pas de sentiments, de pathos, par exemple, dans la figure jaune, dès que la solution est trouvée, il se désintéresse de la personne. Donc il y a une volonté de se représenter lui-même en tant que pure machine logique, pure machine à penser. Et ce qui est à la fois intéressant et embêtant, c'est que ça tient lieu chez lui de morale, ça tient lieu chez lui d'éthique. Une logique sans sentiment vaut pour impératif de vie, pour impératif catégorique, à tel point qu'il a même une maxime que probablement certains connaissent ici, qui est « une fois éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi invraisemblable soit-il, est la vérité ». Donc la conduite de vie de Sherlock Holmes est une conduite qui se veut entièrement logique et rationnelle. Et donc, j'insiste, débarrassé de toute considération morale et encore moins affective. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que à plusieurs points des aventures de Sherlock Holmes, on voit qu'il est extrêmement attentif aux autres, et notamment, et quoi qu'on en dise, à l'autre féminin. Alors, Sherlock Holmes a deux pendants qui sont, on le verra tout à l'heure, le professeur James Moriarty, qui sont le versant sombre, noir de Sherlock Holmes, et il y a Irène Adler, qu'il déclare être lui-même la femme. Mais on en oublie une, qui est Maud Bellamy, qui n'est mentionnée qu'une seule fois dans les aventures de Sherlock Holmes, dans une nouvelle qui s'appelle La crinière du lion. Et Maud Bellamy est décrite par Holmes, non pas par Watson, mais par Holmes, comme étant son idéal physique, et que s'il pouvait avoir un sentiment ou une relation amoureuse, traduisez dans la pudeur britannique et victorienne une relation physique, ce serait avec Maud Bellamy. Autrement dit, Sherlock Holmes, par rapport à ses propres impératifs et ses propres exigences, est toujours en porte-à-faux, est toujours, par exemple, tout le monde a vu, c'est très bien représenté dans la série de La Granada avec Jeremy Brett, ces espèces de sorties de soi, de colère ou de rire hystérique qu'il réprime. Autrement dit, Sherlock Holmes est toujours dans le contrôle, mais c'est un contrôle qu'il a tendance à perdre assez régulièrement. Bon. Et ce contrôle, bien sûr, Holmes l'exerce en premier lieu dans le roman policier, puisque c'est le champ littéraire dans lequel il apparaît. Mais très rapidement... Mais vraiment très rapidement, vous allez voir les dates, c'est quand même curieux. Sherlock Holmes va s'exporter dans d'autres champs littéraires qui n'ont, en principe, rien à voir avec la détection et avec la logique. Bon. Ce sera à peu près le seul mot un petit peu technique qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle un lemme. Un lemme, en philosophie ou dans les sciences exactes, c'est une notion qui apparaît dans un domaine scientifique et qui est transférée dans un autre domaine scientifique pour alimenter et régénérer ce domaine d'arrivée. Donc il y a, le concept apparaît dans un champ de départ, il est implanté dans un champ d'arrivée, et c'est dans ce champ d'arrivée qu'en fait, il va s'exprimer de manière la plus intense. Alors, un exemple qu'on évoquait d'ailleurs tout à l'heure, dans une table ronde, c'est le concept de missing link, le concept de chaînon manquant. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le concept de chaînon manquant apparaît en 1851 dans un ouvrage qui s'appelle Elements of Geology, et il désigne au départ une strate indéterminée que l'on postule pour expliquer deux couches minérales. C'est ça au départ. Bon. Un LEM, en géologie, ça n'intéresse absolument personne, ou très peu de gens. Il va être implanté, ce concept de chaînon manquant, en biologie. Et alors là, c'est l'explosion. C'est dans le domaine d'arrivée que le concept va trouver sa plus pure expression, et notamment dans les domaines qui nous intéressent. Par exemple, Sherlock Holmes, dans Le chien des Baskerville, dit que trouver la solution d'un problème, c'est identifier le chaînon manquant. Il y a une nouvelle, pas très bonne d'ailleurs, de la fin, qui s'appelle L'homme qui grimpait, où un personnage, c'est plus ou moins une reprise de Double assassinat de la rue Morgue d'Edgar Poe, où un personnage s'inocule des cellules animales et va régresser vers un état primitif de l'être humain, et donc c'est le chaînon manquant. Bon. L'autre grande interprétation du chaînon manquant, c'est bien sûr Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où tous les états de l'être humain sont dans un même individu, et L'île du Docteur Moreau, 1895, je crois, de Wells, où le docteur Moreau crée des espèces d'états intermédiaires entre l'homme et la bête, et entre la bête et l'homme. Bon. Donc, pour revenir à notre ami, le locataire de Baker Street, Sherlock Holmes va devenir un LEM, c'est-à-dire qu'il va être implanté dans des champs littéraires qui sont pas les siens au départ, et notamment à partir de pistes qui apparaissent déjà dans les aventures de Sherlock Holmes. Et notamment, vous m'entendez si je me lève ? Ça ira, parce que je peux bouger un petit peu, voilà. Donc, les premiers signes du LEM de... Vous m'entendez ? Ça va ? Bon. Les premiers signes du LEM de ce transfert de Sherlock Holmes... C'est dans Les aventures de Sherlock Holmes, et notamment dans une nouvelle qui s'appelle Le problème du pont de Thor, et qui contient ce qu'on appelle des Untold Stories. Alors, les Untold Stories, ce sont des histoires évoquées, mais non racontées par le docteur Watson, qui font état d'enquêtes résolues ou pas. Il y a notamment des échecs de Sherlock Holmes, et qui ne font pas l'objet d'un récit. Bon, il y en a comme ça pas mal, il y en a plusieurs dizaines dans l'ensemble des aventures de Sherlock Holmes, mais il y en a une qui est très riche, c'est le problème du pont de Thor, qui commence de manière très inattendue. Watson dit qu'il a une malle, une cantine militaire, dans une banque qui s'appelle la Cox & Co., et dans cette banque, dans cette malle, il a des récits qui ne peuvent pas être racontés au grand public pour des raisons de confidentialité ou parce que le grand public n'est pas prêt à entendre la vérité. Bon. Rappelons que dans les aventures authentiques de Sherlock Holmes, il n'y a pas d'histoire surnaturelle ou de science-fiction, il n'y en a pas. Ce qui s'en rapproche le plus... C'est le vampire du Sussex, mais qui a une résolution rationnelle à la fin, ou le chien des Baskerville, qui emprunte des éléments gothiques fantastiques, mais qui aussi a une solution rationnelle à la fin. Or, dans l'aventure du problème du pont de Thor, qui est publié en 1922. Comme ça, mine de rien, Watson nous dit qu'il est question, dans cette fameuse mail, de l'aventure de, d'Isadora Persano, qui est un journaliste, duelliste, qui a été retrouvé fou sur son lit auprès d'une boîte d'allumettes contenant un verre inconnu de la science. Enfin, vous entendez ça, ça vaut tous les romans. Et c'est ça le propre des Untold Stories, c'est qu'elles doivent faire une à deux phrases, mais elles doivent vous emmener vers l'ailleurs aussi sûrement que si c'était une nouvelle à part entière. Bon, donc la première, c'est l'affaire Isadora Persano, avec ce verre, cette larve inconnue de la science. Bon, la deuxième, toujours contenue dans la même malle et évoquée au début de l'affaire du pont de Thor, c'est l'affaire de James Phillimore. James Phillimore étant rentré chez lui pour aller chercher un parapluie et n'a plus jamais réapparu. Et ça, c'est bien dans les aventures de Sherlock Holmes. Autrement dit, Conan Doyle, tout en ne les racontant pas, donne une espèce de petite ouverture, laisse la porte légèrement ouverte, afin que son personnage puisse éventuellement aller vers des champs qui ne sont pas des champs du domaine policier. Bon. Alors, bien sûr, ces fameuses Untold Stories, vous l'imaginez bien, elles ont été racontées, interprétées par quantité de véritables auteurs d'imaginaire. Alors, comme ça, il y a Auguste Derles, très rapidement donc. Vous avez Philippe Joseph Farmer, bien sûr, James Blaylock, mais aussi des gens comme Stephen King, Stephen Baxter, qui vont s'emparer de ces énoncés et qui vont donner des versions, en général, science-fictionnesques. Mais, le premier vrai déplacement de Sherlock Holmes, il a lieu en 1917. Donc, Arthur Conan Doyle est toujours vivant, hein. Il a encore 12 années de vie. Donc, en 1917, dans Le fils de Tarzan, Edgar Rice Burroughs dit... Alors, donc, Le fils de Tarzan, au chapitre 2, met en scène un drame qui a lieu dans la famille Greystock, donc la famille de John Clayton, Tarzan. Donc, il y a l'enfant a disparu, et quelqu'un de la famille Clayton dit « il faudrait engager Sherlock Holmes ». Et le problème, c'est qu'il n'est pas là, et c'est seulement parce qu'il n'est pas à Londres que Sherlock Holmes n'intervient pas dans l'histoire. Mais c'est très important, parce que Edgar Rice Burroughs, en mentionnant Sherlock Holmes dans l'univers de Tarzan, déjà dit que Tarzan et Sherlock Holmes appartiennent à la même réalité, une réalité victorienne d'ailleurs, qui est assez plausible, hein. Les deux évoluent quand Tarzan est en Angleterre, il est dans le Londres victorien où évolue Sherlock Holmes. Mais surtout, si Sherlock Holmes appartient à l'univers de Tarzan, eh ben, il appartient aussi aux parts, c'est-à-dire les restes de l'Atlantide dans cette Afrique complètement fantasmée qu'est l'Afrique d'Edgar Rice Burroughs. Sherlock Holmes appartient au même univers que les hommes fourmis, qui évoluent eux aussi dans cette Afrique complètement rêvée qui est celle de Tarzan. Et Sherlock Holmes appartient aussi à la même réalité que Pellucidar, ce monde qui est à l'intérieur du monde, dans lequel Tarzan va aller dans un ouvrage tardif qui est Tarzan au cœur de la Terre. Donc, le premier, pour résumer ce premier point, a transféré Sherlock Holmes dans un univers clairement imaginaire, c'est quand même Edgar Rice Burroughs, 1917, Le fils de Tarzan. Et ce qui est intéressant, c'est que le transfert se fait tout de suite dans au moins deux domaines qui nous intéressent, la science-fiction et la fantasy. Étonnamment, on aurait pu se dire que Sherlock Holmes serait plus facilement déplaçable dans le fantastique. Non, d'entrée, c'est dans la fantasy et la science-fiction qu'il apparaît. Alors, suite à cela, en 1928-29, Arthur Conan Doyle, lorsqu'il publie le recueil de nouvelles « Les archives de Sherlock Holmes », Conan Doyle dit « C'est la dernière fois. Je n'écrirai plus sur Sherlock Holmes. » Et de fait, « Les archives de Sherlock Holmes » en automne 28, c'est le dernier recueil des aventures. Bon. Auguste Derles, qui est un gamin à l'époque, un jeune Américain, entend que Sherlock Holmes, c'est fini, et écrit, enfin c'est comme si vous écriviez à Stephen King en apprenant, comme si on écrivait à Stephen King en apprenant qu'il ne fera plus jamais de récits sur Castle Rock, que vous preniez la plume et que vous écriviez à Stephen King. Donc Derles, qui est un gamin, écrit à Conan Doyle et lui dit « Pas de problème, je prends la main ». Il reçoit une lettre d'un inconnu, parce que nous, Auguste Derles, on le connaît adulte, on sait qu'il a créé Arkham House, on sait qu'il a publié les textes de Lovecraft et puis de Robert Bloch et compagnie, mais à l'époque, c'est un adolescent. Donc il écrit à Conan Doyle, bien sûr, Conan Doyle refuse, mais il lui répond quand même, c'est quand même joli. Ce qui n'arrête pas, bien sûr, Derles, qui va publier en 1929, donc tout de suite, dans le Dragnet Magazine, la première aventure de Solar Ponce. Alors, Solar Ponce, c'est un peu comme le Herlock Sholmès de Maurice Leblanc, c'est une apparence, un paravent, c'est tout simplement pour ne pas dire Sherlock Holmes. Alors, Solar Ponce vit au 7 Pred Street, chez Mrs. Johnson, en colocation avec le docteur Parker. Bon, c'est assez transparent. Le frère de Solar Ponce s'appelle Bancroft et pas Mycroft. Et à un moment, notre jeune Derles se lâche et il dit que Bancroft est l'un des fondateurs du Diogenes Club. Et là, c'est fini. On assume complètement. Et donc apparaît ce personnage qui est un décalque, mais que Derles, parce qu'il a du talent, va complexifier. Et en fait, bien avant Philippe Joseph Farmer et le Wall Newton et la notion de crossover, c'est Solar Ponce qui va fusionner l'ensemble des récits policiers, fantastiques, science-fiction dans son univers de Solar Ponce. Alors déjà, dans l'univers de Solar Ponce, Sherlock Holmes existe. Il y a une nouvelle où le jeune Solar Ponce se rend dans le Sussex voir un vieux détective qui est devenu apiculteur à la retraite et qui est son maître, qui l'a formé. Bon, voilà. Donc tout le monde a reconnu Sherlock Holmes. Dans l'univers de Solar Ponce, Holmes existe, mais, et là ça devient subtil, Arthur Conan Doyle existe. Arthur Conan Doyle est un grand ami, puisque médecin, du docteur Parker. Donc le crossover est en train de se mettre en place. Et surtout arrive un moment où l'univers de Solar Ponce devient historiquement le premier univers de crossover, et pour prendre des grands mots, le premier univers postmoderne, puisque dans les aventures de Solar Ponce apparaissent Hercule Poirot, Simon Templar, le saint, Fu Manchu, Moriarty, bien sûr, qui ne s'est pas laissé calmer par Sherlock Holmes, et puisque déjà le jeune Derles est en relation avec H.P. Lovecraft. C'est-à-dire que dans l'univers de Solar Ponce, le grand spécialiste des textes interdits, il a écrit deux monographies à ce sujet sur les livres perdus, dont le Necronomicon, c'est Solar Ponce. Et dans une des aventures, le professeur James Moriarty travaille avec les grands anciens à les faire revenir. Autrement dit, Solar Ponce, et donc Derles, invente ce qui pour nous est une chose encore assez récente et nouvelle, qui est le crossover. Alors, ce qui est en plus... Outre Conan Doyle, par exemple, lorsqu'il a besoin d'un archi-méchant, Derles y inclut Aleister Crowley, qui lui a parfaitement existé. Voilà. Bon. Alors, tout est en place, ça y est. Sherlock Holmes a franchi le domaine du policier. Il est maintenant intégré dans les littératures de l'imaginaire, ça paraît viable, et à partir de là, Sherlock Holmes, en tant que détective logicien, va affronter toutes les gammes possibles, toutes les interprétations possibles de la raison, du raisonnement. Et en premier lieu, Sherlock Holmes va affronter le défaut de raison, c'est-à-dire le manque de raison. Et les premiers affrontements ont lieu via une nouvelle de Sherlock Holmes écrite par Conan Doyle, qui est Le Vampire du Sussex, qui va permettre la confrontation entre Sherlock Holmes et Dracula. Alors, l'un des personnages qui revient le plus dans les fusions entre policiers et imaginaires, c'est Dracula, donc le fantastique, ça y est. Alors, vous avez vu, hein, les premiers contacts, c'est science-fiction, fantasy, c'est pas fantastique. Mais enfin, la relation est établie, et elle est établie notamment en 1978 par Fred Saberhagen, que les lecteurs de science-fiction connaissent peut-être par son cycle Berserker, qui était quand même bien pillé par James Cameron pour Terminator. Dans le cycle Berserker, vous avez des machines du futur qui envoient des machines à forme humanoïde dans le passé pour tuer les leaders de la résistance humaine. Bon, oui, voilà. Bon, de la même façon, je fais une petite note en bas de page, mais vous avez quand même une nouvelle de Poole Anderson qui décrit un militaire handicapé qui vit par procuration et relation à distance avec un corps qui mesure 2 mètres à la peau bleue. Hein. C'est quand même bon. Oui, voilà. Je me demande où est-ce qu'il est allé chercher sa inspiration avec ce gros bateau qui heurte un iceberg. À mon avis, il l'a trouvé quelque part aussi. Bon. Alors, la première aventure entre Holmes et Dracula, c'est Saberhagen en 78. Et contre toute attente, ils collaborent, en fait. Sherlock Holmes et Dracula, dans un récit qui est assez bien conduit, vont affronter une menace qui est l'affaire du rat géant de Sumatra, une Untold Stories d'Arthur Conan Doyle, et qui en fait est une menace de peste sur Londres. Alors, plus ennuyeux, c'est l'aventure du comte sanguinaire en 1979 par Lorraine dit Eastelman, où là Eastelman intègre en fait Sherlock Holmes dans le roman Dracula. C'est-à-dire que vous avez le récit du roman de Bram Stoker, à ceci près qu'il y ajoute Sherlock Holmes. Donc c'est une relecture en fait du roman Dracula, à ceci près qu'avec Van Helsing et tout son parterre, il y a le détective. Donc c'est une relecture qui est intéressante, mais surtout la grande réussite dans le télescopage entre l'univers de Sherlock Holmes et Dracula, c'est en 1992, Anno Dracula de Kim Newman, où là, Kim Newman imagine que Dracula a survécu au roman de Bram Stoker, il a défait Van Helsing et les autres, que Dracula a épousé la reine Victoria, et que du coup, il a installé une principauté transylvanienne au Royaume-Uni, avec Buckingham entouré d'une forêt de pales, etc., et où toute la communauté vampirique du monde trouve refuge en Angleterre. Bon. C'est à ce point éloigné du roman Dracula que ça en devient une véritable création. Et dans le roman, il est bien question des frères Holmes, puisque ce sont des ennemis d'État. Sherlock Holmes est dans un camp d'internement. Mycroft a disparu, on ne sait pas. Et le Diogène Club est une sorte de cellule qui à la fois résiste au comte Dracula et collabore avec lui. Ça, je vous le conseille, Anno Dracula de Kim Newman, qui est une grande relecture. Alors, vous avez d'autres comme ça, d'autres récits de vampiriques. Mais pour l'essentiel, c'est ce qui caractérise le rapport entre Holmes et un manque de raison. Le sang, la furie, l'érotisme, bien sûr, c'est le vampire qui en tient lieu. Bon. L'autre grand défaut que va affronter Sherlock Holmes, c'est la raison par excès, et c'est en général les savants fous. Alors, la raison par excès, D'ailleurs, il y aura une table ronde demain, je crois, ou samedi sur les savants fous. La raison, on entend par raison excessive une raison qui outrepasse ses propres limites. C'est-à-dire que la science considère que soit elle peut tout expliquer, soit qu'elle peut tout faire. Et donc, c'est la porte ouverte au savant fou. C'est la raison par excès. Or, c'est assez intéressant, puisque c'est un des risques qui plane continuellement sur Sherlock Holmes, de devoir tout expliquer. Donc, Sherlock Holmes, en affrontant la raison orgueilleuse, condescendante, qui outrepasse ses limites, d'une certaine manière, affronte ses propres fantômes et ses propres tendances. Alors, le premier affrontement avec la raison excessive, ce qu'on appelle aussi le syndrome de Frankenstein, vous voyez, je fais mieux que Dieu, regardez, bon, voilà. C'est en 1979, dans Dr. Jekyll et Mr. Holmes, qui lui aussi de Loren D. Eastleman, celui qui a fait l'aventure du comte sanguinaire que j'évoquais tout à l'heure. Alors, dans Dr. Jekyll et Mr. Holmes, Sherlock Holmes est inclus dans le récit de Stevenson, comme il avait fait auparavant dans le récit de Bram Stoker, avec cette trouvaille qui est assez brillante, c'est que le docteur Watson et Arthur Conan Doyle ont été les élèves à la faculté du docteur Henry Jekyll. C'est-à-dire que là aussi, de nouveau, on trouve une sorte de brouillage de frontières entre non seulement le policier et le fantastique, mais entre la vie réelle et la fiction. Docteur Jekyll étant le mentor de Watson et d'Arthur Conan Doyle. Bon. Une autre confrontation avec le Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est en 1999, dans un ouvrage français, il y en aura très peu, mais il y en a quelques-uns de jolis, qui est Le crime étrange de Mr Hyde, de Jean-Pierre Nogret, c'est ça que je vous conseille, qui se passe totalement dans la tête de Mr Hyde. Donc c'est, d'un point de vue littéraire, c'est assez audacieux, parce que Hyde étant tout le temps sous l'emprise de colère ou de passion, etc. C'est une narration assez déconstruite, mais on s'y retrouve. Et dans cette espèce de magma de colère, de haine, de sensualité, apparaissent de temps en temps Sherlock Holmes et Watson. Et donc on comprend en fait que Mr. Hyde est poursuivi par Holmes et Watson. Alors, l'autre confrontation entre Mr. Hyde et l'univers de Sherlock Holmes, c'est bien sûr Kevin O'Neill et Alan Moore avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, où Sherlock Holmes n'est pas directement là, mais où en fait Mycroft Holmes et différents personnages de la littérature populaire participent au service secret, au Diogène Club. Et là, bien plus que le Dr Jekyll, c'est bien Mr. Hyde qui collabore au service secret. Alors, toujours dans la raison par excès, il faut revenir tout simplement aux aventures de Sherlock Holmes par Conan Doyle, et c'est l'évocation de son frère, Mycroft Holmes. Alors, Mycroft Holmes apparaît trois fois. Il apparaît deux fois de manière importante, et il est évoqué une fois, dans l'interprète grec, dans les plans du Bruce Partington et dans le dernier problème où Holmes est poursuivi par Moriarty et le cocher de fiacre, en fait, est Mycroft Holmes. Alors, Mycroft Holmes est décrit par son frère, Sherlock, comme étant plus intelligent que lui, ayant des capacités supérieures aux siennes, mais étant paresseux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Mycroft Holmes, cette oisiveté, elle se traduit notamment physiquement, puisqu'il est décrit comme étant empâté, voire même par la suite obèse. Il a les traits physiques de Sherlock, mais en excessif. Et donc là, c'est assez intéressant, puisque c'est le Holmes le plus intelligent qui est le plus gagné par le corps, en fait. C'est-à-dire que la raison abandonne quand elle est supérieure aux excès du corps. Bon. Et Mycroft Holmes lui-même va être transféré dans l'univers des littératures de l'imaginaire, avec notamment un texte de William Dorn en 1977, où l'explication de l'intelligence de Mycroft est tout simplement qu'il est un ordinateur. C'est une sorte d'automate artificiel, et donc on nage là en pleine science-fiction. Mais Mycroft Holmes ne peut pas occulter la grande intelligence excessive, la grande arrogance du raisonnement, c'est le professeur James Moriarty. Alors, le professeur James Moriarty apparaît très peu, lui aussi, il apparaît que trois fois. Une fois directement dans le dernier problème, où à la fin, tel que l'avait envisagé Conan Doyle, les deux personnages meurent, vous les sont débarrassés. Il apparaît plus tard dans La Maison Vide, qu'on appelle aussi le retour de Sherlock Holmes. Donc avec cette absence de trois ans, Sherlock Holmes réapparaît, donc il est mentionné. Et il apparaît dans un roman de 1925 qui est La Vallée de la Peur, où on en apprend beaucoup plus sur les agissements de Moriarty. Alors, Moriarty est donné comme un professeur, déjà. C'est un universitaire qui a écrit à l'âge de 21 ans un traité sur le binôme de Newton qui dépasse tout ce que la science de son temps peut donner et qui a écrit son œuvre majeure qui a pour nom Dynamique d'un astéroïde. Donc Conan Doyle lui attribue deux œuvres qui sont des œuvres scientifiques. Moriarty est à la tête d'une organisation sans équivalent du crime, mais d'une organisation qui ne commet pas le mal directement. En fait, dans les aventures de Sherlock Holmes, Moriarty anticipe les organisations du type James Bond, en fait. Ce sont des organisations tentaculaires dont on ne peut pas retracer la responsabilité. Donc tout ça, c'est dans les aventures de Conan Doyle. Par exemple, Moriarty lui-même ne tue jamais. Bon. À imaginer, une intelligence excessive, à la limite du savant fou, qui a écrit deux opuscules scientifiques, c'était du pain béni pour la science-fiction, et ça n'a pas tardé, la science-fiction s'y est intéressée. Alors, le premier récit qui porte sur James Moriarty, c'est Poole Anderson, quand même, qui va non pas publier une fiction, mais qui va publier un article dans le club qui s'appelle le Baker Street Irregular, ce qui est le plus ancien club des admirateurs de Sherlock Holmes, qui est un club new-yorkais qui a été fondé en 1934. Et comme il faut produire une sorte d'article, quoi, ou de leçon, de conférence, Poole Anderson a décidé, je vais écrire un article sur le théorème du binôme de Newton de Moriarty. Donc ça, c'est la première incursion de la science-fiction. Et la deuxième incursion de la science-fiction concernant Moriarty, c'est, excusez du peu, Isaac Asimov. Alors Isaac Asimov voulait lui aussi rentrer dans le club des irréguliers de Baker Street. Et comme il ne savait pas trop quoi faire, il avait demandé à son ami Poole Anderson, t'as pas une idée. Et Poole Anderson lui avait dit, écoute, moi j'ai fait le binôme de Newton, il te reste Dynamique d'un astéroïde. Et Asimov a dit, oui, bien sûr, c'est pas le genre de choses qui lui faisait peur. Asimov écrivait surtout, hein. Mais il s'est dit, il faut quand même quelque chose d'original. Or, Dynamique d'un astéroïde, ça ne veut rien dire, puisque chaque astéroïde, même s'il répond à des lois générales, a un devenir particulier. Donc on ne peut pas faire une loi générale d'événements particuliers. Donc il s'est dit, astéroïde, c'est le mot qu'utilise Moriarty à son époque pour dire quelque chose de nouveau. Alors qu'est-ce qui peut être nouveau ? L'électron. Donc il imagine que James Moriarty, dans les années 1840, invente ni plus ni moins que la relativité générale et, plus embêtant, quand c'est James Moriarty, la fission nucléaire. Ce qui vous explique d'ailleurs, parce que vous commençant à vous connaître, vous allez bondir pour trouver la trajectoire d'un astéroïde de Moriarty dans une bibliothèque scientifique, mais non, non, la communauté scientifique ne l'a plus rendu disponible, puisque vous imaginez le danger que ça représente. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même deux auteurs majeurs de la science-fiction, Poul Anderson et Isaac Asimov, mais qui ont d'abord écrit pas à fin de fiction, c'est à fin personnelle pour entrer dans ce fameux club Les Irréguliers de Baker Street. Même si par la suite, la démonstration qui est très jolie hein, d'Asimov fera partie d'un cycle que vous connaissez peut-être, qui est le cycle des Veufs Noirs, qui est un cycle de, voilà, Madame Connet, de raconteurs d'histoires avec des affaires impossibles à chaque fois qui sont résolues, et donc il a réintégré celle-ci. Alors, Moriarty lui-même, dans la mesure où il est l'équivalent de Sherlock Holmes, dans la mesure où il est l'ennemi intime de Sherlock Holmes, donné comme équivalent dans le mal de Sherlock Holmes, va être transféré en tant que l'EM, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement vous avez des transferts de Sherlock Holmes, mais vous avez aussi des transferts de Moriarty. Et parfois même des transferts de Moriarty sans Sherlock Holmes. C'est quand même intéressant. Et alors, il y a quelque chose de très intéressant qu'avait dit l'écrivain de policier Colin Wilson, parce qu'on dit toujours Moriarty, c'est la némésis de Sherlock Holmes, c'est son équivalent. Et Colin Wilson avait dit non, non, non. Moriarty écrit deux essais de science dure qui révolutionnent la connaissance de son époque, et Sherlock Holmes écrit des monographies sur les cendres de tabac. Donc Colin Wilson laissait entendre que Moriarty était au contraire supérieurement intelligent, son équivalent étant plus Mycroft. Bon, en tout cas, Moriarty va lui aussi être déplacé. Alors, il est déplacé donc dans les deux articles qu'on a vus, mais aussi en 1995, dans un texte qui s'appelle « La machine à construire le futur », où Moriarty vole la machine à différence de Charles Babbage, qui est, disons, le premier ordinateur, la première machine à calculer, disons, de l'ère moderne, et il la vole pour prédire le futur. Autre déplacement de Sherlock Holmes et de Moriarty dans la science-fiction, c'est en 1995 dans une nouvelle de William Barton qui s'appelle « L'aventure de la tombe russe » où Sherlock Holmes et Watson sont mis sur une piste d'une énigme extrêmement compliquée qui les fait traverser l'Europe en 1908 de manière à arriver en juin 1908 à Tunguska, je ne sais pas si certains connaissent, et donc Sherlock Holmes et Watson sont annihilés par l'événement de Tunguska, qui est une vengeance posthume de Moriarty. On sait d'ailleurs qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Tunguska. Bon, en tout cas, donc on est là de nouveau dans le récit de science-fiction. Vous avez des questions ou ça va pour l'instant? Bon, très bien, je vous m'accorde un petit peu d'eau. Alors, donc on a vu la raison par défaut, les vampires, la raison par excès, les savants fous. Il y a aussi, bien sûr, la raison autre, c'est-à-dire une intelligence qui n'est absolument pas accessible à notre connaissance, à notre raisonnement. Alors là, évidemment, tout était fait pour que Sherlock Holmes et la guerre des mondes d'H.G. Wells se rencontrent. C'était trop beau, c'est le même Londres, et ça, bien sûr, était fait. Alors, le premier télescopage entre Sherlock Holmes et l'univers d'H.G. Wells, c'est en 1975, avec un bijou qui s'appelle Sherlock Holmes War of the World, où c'est le père et le fils, Manly et Wade Wellman, imagine les événements racontés dans la guerre des mondes, mais au même moment, tout réinterprété par une enquête de Sherlock Holmes, avec des scènes qui sont absolument, dans le visuel, stupéfiantes. où, par exemple, Baker Street est réduit à néant par un canon à chaleur d'un tripode. Il y a une scène qui est assez remarquable où Mycroft Holmes, donc, qui appartient au service secret, évacue la famille royale à Balmoral, etc. C'est-à-dire que vous avez une sorte d'enquête intimiste de Sherlock Holmes, mais dans une apocalypse totale qui est la guerre des mondes. Avec aussi des petits clins d'œil, par exemple, à un moment, il y a un tripode martien qui est détruit dans la campagne anglaise. Donc le martien arrive à s'échapper de la machine et il est poursuivi par des paysans à fourche et à carabine, qui est Lord John Roxton. Alors, Lord John Roxton, c'est dans l'univers du professeur Challenger, donc une autre création de Conan Doyle. Bref, c'est l'homme invisible, c'est-à-dire que le martien est traqué dans la campagne comme l'homme invisible, comme Griffin est traqué dans la campagne anglaise. Alors, la deuxième incursion de Sherlock Holmes dans l'univers de The War of the Worlds, c'est en 1976, avec un titre qui est explicite, qui est The Second War of the Worlds, où après s'être pris une pile, les Martiens reviennent, mais cette fois-ci aidés de, vous allez deviner qui, le professeur Moriarty, évidemment. Dès qu'il y a un mauvais coup. Vous avez aussi en 1995 une très jolie nouvelle, cette fois-ci, qui est l'aventure de la seconde écharpe, où après les événements décrits dans La guerre des mondes, Mark Aronson imagine qu'il y a des relations diplomatiques qui s'installent entre l'Angleterre, pas la Terre, hein, entre l'Angleterre et Mars. Et Sherlock Holmes doit enquêter sur la mort d'un ambassadeur martien en plein Londres, qui est très réjouissante. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, je crois, Bifrost va publier deux histoires d'Eric Brown qui se passent dans globalement le même univers, l'une avec un corps diplomatique martien qui est inquiété et l'autre qui se passe sur Mars. Donc ça, c'est l'année prochaine au Bélial. Donc d'Eric Brown, je vous conseille, c'est vraiment très très bien. Vous avez aussi, toujours dans les relations entre La guerre des mondes et Sherlock Holmes, un passage qui a été traduit chez Bragelonne. Je vous conseille qui est Moriarty, ou le chien de Duberville, de Kim Newman, qu'on a évoqué tout à l'heure avec Anno Dracula. Dans Moriarty, Kim Newman imagine que le professeur James Moriarty a été ridiculisé par un scientifique. Alors qu'il a raison, mais ça s'est mal présenté. Et Moriarty, alors qu'il est le prince du mal, qu'il est une organisation de criminels, etc., n'arrive pas à déroger de cette espèce d'universitaire arrogant, désagréable et tout. Donc les affaires de Moriarty se cassent la figure, ce qui explique que Sherlock Holmes commence à gagner, parce que tout le monde lui dit « Mais enfin, professeur, reprenez en main votre réseau, etc. » Non, 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 je veux avoir la peau de... Et il imagine que Moriarty va inventer complètement les événements qui sont décrits dans La guerre des mondes pour faire une espèce d'énorme canular qui va décrédibiliser l'universitaire qui le ridiculise. C'est très très bien ça. Et traduit donc chez Bragelonne. Alors, voilà pour les Martiens. Donc là aussi, c'est l'occasion d'utiliser, je l'évoquais rapidement, le professeur Challenger, qui est, lui, un personnage qui appartient à la science-fiction, dans Le Monde perdu, par exemple, d'Arthur Conan Doyle. Donc les auteurs, comme ça, fusionnent l'ensemble. Donc vous avez la raison autre avec les Martiens. Et vous avez, bien sûr... ça a été évoqué tout à l'heure, l'absence de raison avec Lovecraft. Donc vous avez beaucoup de pastiches qui mettent en relation Sherlock Holmes et l'univers de Lovecraft. Et je crois que l'un des plus beaux, c'est très probablement un texte de Neil Gaiman qui s'appelle Study in Emerald, donc je ne sais pas comment ils l'ont traduit, qui fait référence à une étude en rouge, et qui est un texte qui a un petit bijou, ça a été traduit en français, où, en fait, vous avez une aventure de Sherlock Holmes, et vous comprenez que les Sherlock Holmes et Watson, en tout cas, le détective et son acolyte poursuivent des ennemis d'État, des ennemis de la reine. Et par un effet, je vais spoiler, désolé, par un effet de basculement sur les toutes dernières lignes, on comprend que, en fait, ceux que l'on tenait pour Sherlock Holmes et Watson dans le récit sont en réalité Moriarty et son acolyte Sébastien Moran, sont donc les héros, que la reine n'est pas du tout la reine Victoria, mais qui est un grand ancien de Lovecraft, et que donc les ennemis de la couronne sont Sherlock Holmes et Watson. Il y a tout un renversement qui est très bien fait, et qui a valu d'ailleurs à Neil Gaiman d'avoir le prix Hugo de la nouvelle, quand même, et d'être admis à ce fameux club des irréguliers de Baker Street qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, Lovecraft, la raison, l'absence de raison, la raison par défaut, la raison par excès, l'autre raison. Et vous avez aussi Sherlock Holmes à travers temps, donc, qui se fait par le biais de la machine à explorer le temps, évidemment, d'H.G. Wells. Et là, vous avez comme première occurrence, en 1955, Poul Anderson, de nouveau, dans le premier volume de La Patrouille du Temps, Sherlock Holmes, enfin, son héros qui est patrouilleur temporel, je pense que tout le monde, des gens connaissent La Patrouille du Temps de Poulon, bien sûr, ben dans le premier récit, Mans Evrard, donc le héros de La Patrouille du Temps, rencontre un détective et son compagnon boiteux auprès d'un tumulus radioactif. Or, là, Poul Anderson, bon, bien sûr, on reconnaît Sherlock Holmes et Watson, mais on reconnaît aussi une Untold Stories décrite par Arthur Conan Doyle. Et donc, c'est très intéressant parce que dès lors que Poul Anderson dit que dans l'univers de La Patrouille du Temps, Sherlock Holmes existe, eh bien, Sherlock Holmes existe. Et par transitivité, d'ailleurs, l'univers de La Patrouille du Temps, c'est aussi le même que celui de Tarzan. Ça commence à être compliqué, mais très riche, en fait, de possibilités. C'est très intéressant. Alors, Poul Anderson, qui est vraiment un holmésien accompli, la preuve, son article sur le binôme de Newton, dans le cycle de La Patrouille du Temps, fait intervenir Holmes trois fois. Cette première fois, dès le premier récit de La Patrouille du Temps, en 1955. Une deuxième fois, en 1983, dans l'ouvrage Le patrouilleur du temps, où Evrard, dans son appartement à New York, entre deux missions, lit les textes inédits du docteur Watson, ce qui laisse rêveur quand même, puisque lui, voilà, comme il peut évoluer dans le temps et dans les univers parallèles, il a accès à des écrits du docteur Watson que nous ne connaissons pas. Et une troisième fois, dans le dernier tome du cycle La patrouille du temps, qui s'appelle Le bouclier du temps, en 1990, par petite plaisanterie, on comprend que les livres qui sont décrits sont en fait les livres qu'utilise Sherlock Holmes dans un déguisement qu'il a de vendeur de livres dans la maison vide. Alors, de manière plus flagrante, c'est l'un des rares pastiches français, en 1988, dans Le détective volé de René Réhouven, René Réhouven imagine que Sherlock Holmes utilise la machine à explorer le temps du voyageur d'H.G. Wells pour, d'une part, se rendre à Paris en 1833 pour aider le chevalier Dupin, donc le détective d'Edgar Poe, pour enquêter, et une deuxième fois en 1849 pour enquêter et tenter sans succès de sauver Edgar Poe de la mort à Baltimore. Donc c'est un double hommage, en fait, au récit policier, mais via la science-fiction. Alors, bon, c'est très subjectif, mais de mon point de vue, le meilleur récit de science-fiction et Sherlock Holmes arrive, c'est en 1977. Il n'est pas traduit, c'est peut-être le plus grand mystère à élucider de Sherlock Holmes. Ça s'appelle Exit Sherlock Holmes, et c'est de Robert Lee Hall, Hall, H-A-2-L, et qui a un bijou. Et cette fois-ci, je ne vais pas spoiler, je ne vous raconterai pas la fin, parce que vraiment, il mérite mieux. Il mérite mieux. Et ça commence, en fait, tardivement. Il y a un Watson encore vaillant, mais mûr, disons, qui, par nostalgie, revient un jour à Baker Street. Donc Sherlock Holmes est censé avoir pris sa retraite et être parti élever des abeilles dans le Sussex. Donc Watson, au début du récit, arrive au 221B et il se rend compte qu'il n'y a jamais eu de Mrs. Hudson, il n'y a jamais eu de détective et que lui-même n'a jamais habité là. C'est ce que lui soutient Mordicus, la famille qui habite au 221B. Donc lui, il est estomaqué, évidemment, puisqu'il a quantité de souvenirs. Et n'ayant aucune explication, il s'introduit la nuit à l'intérieur du 221B et découvre que dans la cave, il y a son salon. Le salon dans lequel il a connu toutes les aventures. Non pas à l'étage, mais dans la cave. Voilà, de mystère en mystère, il cherche à contacter Mycroft Holmes, qui lui peut au moins témoigner qu'il le connaît, etc. Et il se rend compte, en fait, que Mycroft Holmes n'a jamais existé et que là où il était censé tenir les services secrets, le Diogène Club, en fait, c'était une banque qui, de midi à 14h, tout le monde partait à la cantine manger. Et donc, un acteur se faisait passer pour Sherlock Holmes dans ce laps de temps, etc. Et ça, c'est le début. Donc, le début du récit montre que Watson semble délirer, semble être fou. Or, et c'est ça qui est brillant de Robert Liol, il ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une explication à la fin qui est convaincante et qui, une fois donnée, permet après d'avoir un récit de science-fiction, et là, on est dans le grandiose. Vraiment, celui-là, tentez-le, excite Sherlock Holmes. Enfin, dans les grands domaines de l'imaginaire qui sont investis, il y a bien sûr la fantasy. Donc, il en a été un peu question avec Edgar Allan Poe. Mais Sherlock Holmes y va assez régulièrement. Alors, la première fois, c'est en 1955, par ni plus ni moins que C.S. Lewis, dans le monde de Narnia, dans l'ouvrage qui s'appelle « Le neveu du magicien », il est dit, je cite, donc c'est Lewis, hein, quand même, Narnia, qui dit « En ce temps-là, M. Sherlock Holmes vivait encore à Baker Street ». Autrement dit, Lewis intègre Sherlock Holmes dans l'univers de Narnia. Donc, si vous avez la bonté de vous rappeler ce qu'on a déjà dit, l'univers de Narnia est le même que l'univers de Tarzan. Ce qui devient très, très fouillé, mais plein de possibilités quand même. Voilà. Donc, première arrivée dans l'univers de fantasy, quand même, par Lewis, dans Narnia, Sherlock Holmes. La deuxième, c'est là aussi traduit en France, chez Mnemos, dans un univers de magie par Randall Garrett qui s'appelle « Les enquêtes de Lord Darcy ». Alors, Lord Darcy arrive à jongler entre l'Uchronie et la fantaisie de type magique, puisqu'il imagine un royaume d'Angleterre, mais qui, suite à un micmac uchronique avec Aliénor d'Aquitaine, intègre l'Angleterre et la France. C'est-à-dire que c'est une même couronne pour l'ensemble. Et d'autre part, dans cet univers, la magie est une réalité naturelle, au même titre que la physique, la chimie, etc. Et ça, c'est très brillant, parce que, et c'est aussi valable dans Harry Potter, la magie, c'est pas n'importe quoi. Si, par exemple, le lundi, vous faites un filtre d'amour, bah, le vendredi, si vous faites un filtre d'amour, ce sera les mêmes lois, la même recette. Donc, partant de cette idée que dans la magie, il y a des constantes, Randall Garrett imagine un enquêteur qui a un démarquage de Sherlock Holmes, qui s'appelle Lord Darcy, et qui est l'enquêteur royal au service de la reine d'Angleterre. Et ça, c'est très, très bien. Chez Mnemos, tout a été repris en un volume, les enquêtes de Lord Darcy. Alors, vous avez aussi un hommage par l'écrivaine française Anaïs Cross dans Lune de sang en 2006, où elle imagine, elle, un univers à la Tolkien, et ça colle assez bien, c'est très bien fait, où en fait son Sherlock Holmes, qui s'appelle Lystak, qui est un elfe, ce qui physiquement est assez convaincant, et où son Watson, qui s'appelle Evral, est un nain. Et donc, vous avez Sherlock Holmes et Watson implantés dans l'univers de Tolkien. Alors, de très touchant, en 1995, Mark Bourne, dans L'énigme du sourire du détective, imagine qu'un Sherlock Holmes vieillissant reçoit la visite d'une très belle femme âgée de 35-40 ans et qui est en fait Alice, d'Alice au Pays des Merveilles. Et à partir de là, à partir de souvenirs communs, il se rappelle comment l'un et l'autre ont visité le Pays des Merveilles, qui a un récit un peu crépusculaire, gris, en demi-teinte, qui est très touchant, très émouvant, qui est très bien. Alors, de la même façon, chez Ruth Berman, en 1994, Sherlock Holmes, cette fois-ci, rencontre l'autre grande héroïne de fantasy, qui est Dorothy Gale, dans l'univers d'Oz, c'est-à-dire que Sherlock Holmes est engagé par le magicien d'Oz pour enquêter dans la cité d'Emeraude. Alors, parmi les Français, vous avez en 2002 Thomas Day, qui imagine dans L'instinct de l'écarisseur une sorte d'Angleterre parallèle où Sherlock Holmes est exécuteur royal. Et j'ai moi aussi commis la Ligue des héros et de manière générale les aventures de Lord Craven, où j'imaginais que l'univers de Peter Pan, suite à un micmac scientifique et le nôtre, fusionnent. Et donc, Sherlock Holmes est en fait le chaman de Lily la tigresse, puisque Conan Doyle décrivant lui-même Sherlock Holmes comme un pot rouge, c'était assez facile à faire. Voilà. Bien, et enfin, reste une niche vraiment de la fantasy, qui est la fantasy animalière, qui n'est pas très populaire en France, mais qui est très appréciée des anglo-saxons. Et là, vous avez effectivement Sherlock Holmes qui est transféré non seulement dans la fantasy, mais dans une fantasy dont les personnages principaux sont des animaux. C'est déjà une niche éditoriale quand même. Hein. Alors, la première, c'est Poul Anderson, une fois de plus, qui, en 1971, entame un cycle qui va appeler le cycle des Okas. Alors, les Okas, c'est... Vous avez vu le film Ted ? Ben imaginez une planète peuplée de Ted. Ce sont des oursons gouailleurs, énervés continuellement, mais très gentils fondamentalement, etc. Donc il imagine une planète d'oursons qui reçoivent un jour la visite d'un ambassadeur terrien, et cet ambassadeur terrien leur raconte par exemple le Far West. Et ils sont tellement subjugués par les images que... ça entraîne qu'ils terraforment leur planète pour en faire un gigantesque Far West. Et il y a une aventure où l'ambassadeur terrien leur raconte le chien des Baskerville et où tous les Okas, donc ces espèces de peluches braillardes, créent un Londres peuplé d'ours. Et il y a bien sûr un détective et un Watson. Alors, dans les fantaisies animalières, la plus connue, c'est Basil de Baker Street, bien sûr, en 1958, d'F. Titus, qui est charmant, où F. Titus imagine que dans le 221B de Sherlock Holmes, donc Sherlock Holmes est donné comme existant dans cet univers, il y a un trou de souris et il y a Basil, une souris, qui écoute en fait et regarde ce qui se passe dans le salon de Sherlock Holmes. Ça va lui monter à la tête, bien sûr. Il va se trouver un Watson et ils vont enquêter dans un univers de souris et de rats, puisque Basil a son propre professeur Moriarty en la personne de Ratigan, qui est une sorte de maître du crime de l'univers souris. En 1996, vous avez de William Kotzwinkel du grabuge chez les insectes, où là, il imagine les aventures de Sherlock Holmes dans un Londres, mais simplement peuplé d'insectes. Donc, Sherlock Holmes a la forme d'une montre religieuse, ce qui colle assez bien, en fait. Il habite au 221B de la rue Picpus, dans sa traduction, chez Madame Vermicelle. Moriarty, puisqu'il est décrit dans les aventures de Conan Doyle comme une araignée tapie dans sa toile, eh ben, c'est le professeur Tarantule, évidemment. Et vous avez comme ça Irène Adler, c'est la troublante Juliana Papillon, etc., qui est donc un transfert de l'univers de Sherlock Holmes dans la fantasy. Bien, et nous arrivons à la conclusion qui est la télévision, puisque les transferts, les deux grands transferts qu'il y a eu dernièrement, c'est à la télévision avec le Sherlock qui est une réinterprétation contemporaine jouée par Cumberbatch et Martin Freeman, Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, et Elementary avec Johnny Lee Miller et Lucy Liu. Entre parenthèses, c'est marrant parce que les deux adaptations de Sherlock Holmes dans l'univers contemporain, c'est met en scène les deux acteurs qui ont joué ensemble Frankenstein. C'est-à-dire que quand Frankenstein était adapté au théâtre, Cumberbatch faisait le professeur et Miller la créature, et le lendemain, Miller faisait le professeur et Cumberbatch la créature. Donc c'est assez marrant de quand même qu'on les retrouve en Sherlock adapté au monde contemporain. Alors, en fait, on pourrait penser, quand on regarde ces deux séries, que Sherlock Holmes est adapté au monde contemporain. Mais c'est faux. C'est pas ça. De la même façon que tout à l'heure, comme je vous expliquais, les raisonnements de Sherlock Holmes façonnent la réalité. En fait, si vous prenez ces deux séries, c'est bien notre monde contemporain qui se réorganise autour de la figure de Sherlock Holmes, avec peut-être une espèce de nostalgie dans des valeurs qui étaient celles du citoyen responsable, venant épauler la police toujours maladroite, etc. Et il y a cette idée que, en fait, c'est pas tellement, quand on regarde ces séries, le plaisir de voir comment Sherlock Holmes résiste au transfert de notre monde qui nous intéresse, c'est de voir en fait comment notre monde peut être réinterprété par le filtre de Sherlock Holmes. Et donc, une fois de plus, et je finirai sur ça, le transfert de Sherlock Holmes en tant que l'aime de son univers de départ, le roman policier, à des récits imaginaires, en l'occurrence deux transferts temporels quand même, et bien une fois de plus, le transfert de Sherlock Holmes en tant que l'aime fonctionne. Voilà, je vous remercie. Alors, si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez, je vous rappelle des titres que j'ai évoqués, n'hésitez pas. Hein. Je veux que je revienne sur des... Oui. Alors, c'est l'énigme du sourire... Attendez, je vous le... C'est Marc Bourne, 95, qui est très joli. L'énigme du sourire du détective de Marc Bourne, c'est ça. Que je la retrouve. C'est ça, c'était bien ça. L'énigme du sourire du détective. Oh,